Merci. Donc, merci beaucoup, Constantia. D'abord, tout avant de commencer, j'aimerais juste savoir et vous dire que j'étais très surprise que Constantia me demande de donner un discours dans la faculté de droit sur un art émergent qui est un art qui, il faut dire, choque aussi la communauté d'art. Donc, c'est vraiment étonnant que... salutaire que Constantia veut créer un discours sur les problèmes et les, autour de la biotechnologie aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je vais donner un discours sur le thème de quand l'art rencontre la science. Et puis après, j'aimerais montrer un peu quelques cas qui a lieu avec la loi. Et puis peut-être on peut avoir une discussion. Parce que normalement, j'enseigne en anglais. Beaucoup de ces termes sont je suis plus familier avec les termes en anglais. Donc j'ai écrit un texte pour la plupart pour que je cherche pas trop mes mots et tout ça. Donc je vais lire un peu. Et puis si vous avez des questions, même pendant, demandez-moi. Au point de rencontre des arts et de la biologie, un observateur pourrait avoir l'impression que l'écart qui les sépare se rétrécit. Clones, chimères et autres monstres qui étaient auparavant du domaine de l'imaginaire sont aussi maintenant le résultat tangible de l'activité scientifique des laboratoires. Le brebis Dolly a captivé l'imagination dès sa naissance en juillet 1996 et a soulevé beaucoup de questions sur les techniques de clonage. 6 ans après le corps de Dolly, le premier mammifère cloné avec succès à partir d'une cellule somatique est devenu presque un objet d'art exposé maintenant dans un musée. Dans les laboratoires d'ingénierie génétique, il y a des créatures qui rivalisent les images de créatures monstrueuses qu'on trouvait autrefois que dans les récits mythiques, les légendes ou les romans de science-fiction. Une série de photos de Catherine Chalmers montre une foule tout d'animaux génétiques modifiés que ces laboratoires produisent actuellement par millions. Tels des chimères ou des monstres hybrides, ces animaux transgéniques sont élevés pour étudier toute une variété de pathologies. Ici, sur la gauche, c'est une publicité pour une souris obèse à vendre pour la recherche sur le diabète ou l'insuffisance endocrine. Elle coûte 105 $ par couple pour les laboratoires. Donc, les chercheurs en ingénierie des tissus cellulaires, Joseph et Charles Secanti de MIT, ont peut-être développé la créature la plus grotesque, la plus frappante, impliquant les notions d'une science vraiment hallucinante. Certains de ces spécimens développés, on va parler plus loin de ce projet, certains de ces spécimens développés dans les laboratoires scientifiques surpassent, je pense, cette photo fait la preuve, surpassent en valeur iconique les images de créatures fantastiques qui ne se trouvaient autrefois que dans les récits mythiques, les légendes ou les romans de science-fiction. Donc, pendant la biologie produit les créatures qui relevaient de l'imaginaire, l'artiste, lui, je voulais juste vous montrer comment les arts vraiment font pas, défient pas les images qui, des créatures qui sont créées réellement dans les laboratoires. Donc, pendant que la biologie produit des créatures qui relevaient les imaginaires, l'artiste, lui, de plus en plus porte la blouse blanche du laboratoire et assume le rôle de scientifique chercheur. Il se pose alors souvent la question, à cause de ça, comment ça peut-il être de l'art, même de les communautés d'art. Et donc, on est en train de voir un art qui est complètement différent et qui choque beaucoup. Les artistes qui sont ici, on va en parler de plusieurs, et donc un peu plus loin, mais tout ce que je voulais montrer pour l'instant, c'est que les artistes, vraiment, ils travaillent dans les laboratoires avec les scientifiques, et puis ils exposent leurs travaux dans les laboratoires, dans les galeries d'art. C'est bien que les artistes et les scientifiques semblent travailler dans les domaines similaires, les scientifiques créent les créatures qui étaient faisaient partie de l'imaginaire auparavant, les artistes qui travaillent dans les laboratoires, etc. Quelque chose que je veux souligner, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. Et puis, tout en partageant les mêmes laboratoires et les mêmes expérimentations biotechniques, les prémices ou les buts respectifs de l'artiste et du scientifique sont très différents. Dans les domaines des biosciences, toute recherche innovante est basée sur des projets pour améliorer, réparer ou remédier à l'inefficacité ou à la défectuosité du corps humain ou encore de pallier les lacunes de la nature. Dans cette tâche, les bioscientifiques présupposent, dans la majorité des cas, que l'entité vivante avec laquelle ils travaillent est un corps biologique neutre, pas les artistes. De leur part, les manipulations artistiques reconfigurent, colorent, démystifient et contaminent même les corps purs de la science, leur infusant des concepts philosophiques, éthiques et esthétiques, et souvent liés aussi avec le voir, comme on va voir. Souvent, leurs œuvres nous introduisent aux problèmes sous-jacents des chimères, des monstres et des entités semi-vivantes produites scientifiquement pour susciter un débat vital pour un public non spécialiste. Et puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment, beaucoup d'artistes, bio-artistes disent, qu'ils veulent sortir ces expérimentations biotechnologiques en dehors de les laboratoires des spécialistes et puis nous montrer vraiment les enjeux de ce genre de pratique. Que les activités des bioartistes soient de l'activisme social, et puis il y en a plusieurs, et révélateurs, métaphoriques ou ironiques, sensationnels par leur nature, et c'est souvent le cas. Les bioartistes sont engagés directement ou indirectement dans la production de connaissances. Ainsi, ils nous créent un vocabulaire visuel et littéraire par lequel et à travers duquel on peut commencer à repenser et reviser certaines conceptions et fausses idées sur l'art et la science et sur le vivant en ce siècle de biotechnologie. Donc, de manière à explorer les intersections et les différences entre l'art et la science, j'aimerais regarder les exemples de bio-art dans trois domaines différents et montrer comment certaines idées résonantes dans ces œuvres respectives servent à les différencier des projets scientifiques. Donc, on va regarder un exemple de technologie de clonage avec le sous-thème vie génétiquement identique et différente, l'ingénierie génétique, hybride interespèce et altérité, et puis ingénierie tissulaire, corps régénératif et la mort. Bon, et puis après, je voudrais aussi regarder le bioart et la loi. Je vais regarder deux cas. La brevetée de la matière vivante, qui est propriétaire de votre corps, les artistes qui en parlent. Et puis aussi, un cas spécial qui implique une artiste très connue, une bioartiste très connue, et le FBI, qui était chargé d'être une bioterroriste. Donc, comment ce cas-là implique le droit et la parole artistique, le droit de la parole artistique. Donc, tout d'abord, on va regarder donc la technologie du clonage. Bien avant même l'existence de Dolly le brebis, le clonage a suscité la peur de la production éventuelle d'une réplique parfaite d'un individu, mettant alors en cause l'essence même de l'identité humaine. De telles peurs sont ancrées dans l'idée que sa propre identité est équivalente à sa constitution génétique, idée qui réduit en fait l'humain comme le non-humain à des codes génétiques, qui est vraiment réducteur, bien sûr. On est plus que nos gènes. Alors, ce sont des idées sur le déterminisme génétique qui sont au cœur de ce projet de Natalie Jerry Mijenko qui s'appelle One Trees. Dans cette œuvre, elle s'efforce de dissiper certaines idées fausses à propos de l'identité génétique en produisant des clones, pas des clones d'animaux, mais des clones des arbres, des végétaux. Cette œuvre a été réalisée en collaboration avec les scientifiques de l'Université de Californie à Davis, qui avait des milliers de clones de noyés, des milliers de clones de noyés centenaires dans le cadre d'un programme d'amélioration des normes génétiques d'autres espèces de noyés. Natalie Jerry Mijenko avait différentes intentions quand elle utilisait une centaine de ces clones produits par les scientifiques. D'abord présentés en semi comme à gauche dans une galerie, ils ont ensuite été exposés à différents stades de leur développement. Les arbres de Jerry Mijenko, comme vous pouvez voir là, ont dû disappointer ceux venus voir une exposition de clones, ceux qui espéraient voir des répliques parfaites de science-fiction. Bien que génétiquement identiques et possédant le même ADN, les clones présentèrent des particularités différentes dès le stade des jeunes pousses, au niveau du branchage, du feuillage et du taux de croissance. Et bien entendu, il ne ressemble pas à l'arbre centenaire, même si génétiquement identique. Par la suite, les clones ont été transplantés par pair pour comparaison dans plusieurs espaces publics dans la région de San Francisco. Dans ces nouveaux environnements, les ressemblances et les différences sont restées identiques, mais avec un accroissement des différences dues aux facteurs environnementaux. Alors donc là, on pouvait voir vraiment sur place, dans la place publique, des arbres génétiquement identiques, mais évidemment différentes. Et puis c'était dans plusieurs endroits, donc l'environnement jouait aussi. Donc avec cette œuvre clonale, l'intention de Jerry Mijenko était de récuser le discours conventionnel sur la génétique qui perpétue les notions de perte d'individuation et d'authenticité et réputer la notion que les gènes sont le livre de la vie. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, surtout depuis le projet de le génome humain, que les gènes, ce projet vraiment révèle le livre de la vie, que toute la vie est là dans nos gènes. Quelque chose qui est vraiment problématique et réducteur. En fait, chaque arbre cloné prouve le contraire. En visualisant les ressemblances et les différences, on peut visualiser que les codes génétiques n'étaient pas les seuls constituants de la vie. Maintenant que la cartographie du génome humain est terminée, il peut être important de rejeter ces notions réductives de la génétique. Un être humain n'est-il pas plus que la somme de ses gènes? Même tout vivant n'est-il pas plus que la somme de ses gènes? Donc si One Trees de Jerry Mijenko permet de reconnaître la complexité de toutes les formes de vivant, il démystifie aussi une fausse idée, celle des plantes clonées. Et puis souvent quand je donne un cours sur le bioart à Concordia, et puis souvent je demande aux étudiants, est-ce que vous avez déjà vu des clones? Et puis personne dit non. Est-ce que vous avez déjà mangé des clones? Et puis, personne, les gens regardent avec un peu d'horreur. Ah, mais en fait, on a tous vu des clones et puis on a tous mangé des clones. La méthode de micropropagation utilisée dans cette expérience est un procédé de reproduction asexuée similaire à la production de nouveaux plantes par bouturage. Quand on coupe une plante et puis l'on met dans l'eau, en fait, on crée un clone parce qu'ils sont génétiquement identiques. De plus, quand on consomme les clones quotidiennement, tous les fruits avec un nom comme les agrumes Sunkist ou les Granny Smith, les pommes Granny Smith sont en fait cultivées par des compagnies et puis sont des clones. Donc, les artistes comme Jeremy Janko essaient à démystifier certaines mauvaise idée qu'on a sur les biotechnologies. Donc, si une œuvre telle que One Trees nous procure les éclaircissements sur la génétique et le clonage, les œuvres d'ingénierie génétique conduites par l'artiste et un peu sensationnaliste Eduardo Kac placent au premier plan d'autres perspectives. Cette fois-ci, les problèmes sous-jacents aux hybrides inter-espèces ou transgéniques qui par eux-mêmes s'adressent à nos notions de pureté génétique. L'exemple d'une telle chimère est la lapine albinos transgénique nommée Alba par Eduardo Kac. La conception de cette lapine a démarré avec un artiste français, Louis Beck, qui a facilité la création de cette lapine transgénique en négociant avec des bioscientifiques au laboratoire prestigieux de l'Institut national de la recherche agronomique dans le sud de la France. Alors, pour des centaines de lapins développés chaque année dans ce laboratoire, une protéine fluorescent vert prise sur le génome d'une méduse a été incorporée à la constitution génétique de la mère d'une lapine. Ici, on voit le diagramme d'une une chien, parce qu'au début, elle voulait le faire avec un chien, mais elle n'a pas pu. Donc, elle a pris trouvé un endroit pour faire un lapin. Et puis, en fait, ce qui se passe, donc, ça commence avec l'œuf des parents et tout ça, et puis donc certains progéniteurs vont être génétiquement modifiés. Et puis donc Alba, et puis ça c'est une image du Photoshop de Alba, c'est le progéniteur qui en est résulté, et une créature chimérique, une hybride qui brille vert fluorescent sous une lumière ultraviolette. Maintenant, une telle lumineuse sert à la recherche médicale pour étudier des organes invisibles et tout ça dans le corps humain. Et donc, c'est une procédure médicale courante. Mais Kac avait d'autres intentions pour cette lapine Alba. Il voulait l'exposer comme une lapine génétiquement modifiée. Cependant, Alba n'est jamais sortie du laboratoire, née au moment de l'alerte de la maladie de la vache folle en Europe. Cette lapine transgénique n'a jamais été exposée, l'Institut s'étant opposé à une présentation publique. Donc, bien entendu, de tels actes ne révèlent pas du souhait des scientifiques pour disséminer les connaissances d'un projet scientifique. On peut comprendre aussi qu'il y avait un peu un malentendu ou une misrepresentation de la part de Kac vis-à-vis les scientifiques. Donc, ils n'étaient pas d'accord pour qu'elle soit exposée. Donc, même si cette lapine n'a jamais atteint le statut d'œuvre transgénique exposée dans une galerie, comme l'artiste souhaitait, une photo comme ça est devenue vraiment une icône de l'art bioart. De le bioart. Quand on parle de le bioart, on pense souvent à cette lapin vert. Et puis Alba a acquis vraiment une certaine notoriété on voit ici dans les journaux, on a aussi écrit sur elle dans la presse et puis ailleurs à Montréal. Donc, quoique Alba ne soit pas encore un nom que tout le monde connaît, elle a eu peut-être plus de couverture de presse dans les journaux, à la télévision, à la radio, que beaucoup d'œuvres d'art importantes de toute l'histoire de l'art. Donc, la lapine verte a même attiré l'attention de la romancière canadienne Margaret Atwood dans son livre publié il y a 3-4 ans, je crois, qui s'appelle Oryx and Craig, ouais, 2003, qui s'appelle Oryx and Craig. L'auteur évoque brillamment les répercussions sérieuses qui peuvent arriver quand la recherche biotechnologique est accouplée aux impératifs capitalistes sans bornes. Et dans ce roman, elle a un paragraphe sur Alba, pas sur Alba, mais sur une lapine fluorescente. Et puis, Eduardo Cat a quand même mis ça sur son site web. Il met tout ce qu'on a écrit sur lui sur son site web. Un artiste qui aime se montrer comme un grand bio-artiste. Cependant, dans une autre perspective, la publicité autour d'Alba est intéressante, en particulier à la lumière de l'œuvre subséquente de CAC, qui s'appelle La huitième jour, The Eighth Day. Cette œuvre présente une collection de chimères vert fluo, des poissons, des souris et des plantes GFP, toutes génétiquement manipulées, comme Alba avec la protéine de méduse. Même si ces animaux transgéniques ont été exposés sous un dôme de plexiglas, qu'on peut voir, ils étaient exposés par Kamalba, et ont même fait l'objet d'un livre par CAC, ils n'ont pas capté l'imagination du public comme Alba l'a fait. Donc, qu'est-ce qui fait que Alba soit plus remarquable que ces autres animaux transgéniques? Alba, comme le brebis Dolly, d'ailleurs, est une de ces animaux développés génétiquement avec un nom, avec un sexe, avec une identité. Au contraire, des millions d'animaux transgéniques anonymes peuplant les laboratoires ou même ceux qui habitaient dans le dôme du plexiglas pour l'exposition 8e jour. Alba est représentée comme une chimère unique et individualisée. Bien qu'étant une hybride transgénique comme les autres, elle ressort par son individualité, son altérité. Sa simple image même coïncide avec les modèles conceptuels reconnaissables, le lapin en plouche, l'animal domestique, voire même l'animal comestible ou l'animal de laboratoire exploité. La question inévitable que l'on se pose quand on entend parler d'Alba la première fois est « Alba est-elle toujours vivante? » Alors, je ne sais pas. Je ne pense pas. Comme chimère sexuée avec un nom et une image reconnaissable, Alba transcende le statut du corps biologique scientifique anonyme plus que ses homologues transgéniques de l'exposition 8e jour. Pour illustrer maintenant un autre genre de biotechnologie, on va regarder un exemple de l'ingénierie tissulaire. Et puis ces horribles photos de la souris avec une oreille. Cette bioscience particulière laisse entrevoir des progrès étonnants en médecine régénérative qui me permettra, dans un avenir pas très éloigné, de cultiver ses propres organes et des pièces de rechange pour le corps humain, pour pallier aux défectuosités, aux imperfections, aux vieillissements. On le fait déjà pour la peau, pour les grands brûleurs et tout ça. La culture de nos organes à partir de nos propres cellules éliminera les problèmes de rejet de l'organe du donneur par le système immunitaire du corps hôte. Cette expérimentation scientifique des docteurs Vacanti s'est faite par l'implémentation d'une structure en forme d'oreille faite des fibres polyester biodégradables sur le dos d'une souris sans poils, laquelle a été subséquemment ensemencée avec les cellules vivantes de cartilage cartilage. Les cellules croissantes ont alors pris la forme du moule et puis l'organisme de la souris a nourri les cellules cartilagineuses qui ont peu à peu remplacé les fibres polyester biodégradables. Après, ça ne marche pas encore comme procédure parce que une fois enlevé, le tissu meurt. Mais les artistes, Oren Katz, et Yonatsur ont été invités à travailler avec le Dr. Joseph Akanti au laboratoire d'ingénierie tissulaire et de fabrication d'organes à MIT, où ils ont appris les techniques de culture tissulaire. Akanti a été choqué que les deux artistes ne se contenteraient pas de simplement dessiner, peindre ou photographier les projets de culture tissulaire, mais désiraient s'impliquer dans les techniques d'ingénierie elles-mêmes. À cause de ça, en réaction aux inquiétudes du scientifique, ils ont cultivé une série de worry dolls, littéralement poupées de soucis, inspirées de la légende guatémaltèque selon laquelle le soir, avant de s'endormir, les enfants racontaient leurs soucis à la poupée en sorte qu'ils disparaissent pendant la nuit. Donc, depuis cette époque, Zur et Katz ont utilisé l'ingénierie tissulaire pour développer beaucoup d'autres sculptures semi-vivantes pour les exposer dans les expositions internationales. Toutes venaient de cultures de cellules de peau, de muscles, d'os cultivés sur les structures du polymère biodégradable de toutes formes et tailles. Et l'une d'elles, présentée dans plusieurs expositions, est une oreille semi-vivante, une réplique à l'échelle une quart d'une autre artiste Stellark. Non, le deuxième oreille qu'on voit sur l'artiste Stellark n'est pas vrai, c'est juste une photo. Mais il a travaillé avec Oren Katz et Yonatsur dans ses projets. Et puis par la suite, les a laissé tomber parce que le génie titulaire n'est pas à point et puis il était pressé d'avoir une troisième oreille. Il ne pouvait pas l'implanter derrière parce que la peau est trop serrée ou je ne sais pas exactement. Donc il a fait par la chirurgie plastique une troisième oreille sur son bras. En tout cas, c'est un artiste un peu sensationnaliste, mais qui, avec ses performances et tout ça, vraiment nous fait réfléchir sur les différents genres du corps qu'on va voir dans l'avenir assez proche. D'une manière sensationnaliste, bien sûr. Mais Katz et Zur, en tant qu'artistes, réalisent l'impact de leur sculpture semi-vivante sur notre imaginaire et de quelle manière on pourrait commencer à considérer la culture de pièces de rechange pour notre corps. Comme il dit, cette oreille supplémentaire semi-vivante ne peut pas entendre ni probablement écouter, mais elle peut évoquer avec défiance des scénarios futurs subversifs à l'égard de l'humanité et ses relations avec les entités semi-vivantes et autres systèmes vivants alternatifs. Donc, tel que mentionné déjà, toutes ces cultures semi-vivantes sont exposées dans les laboratoires du culture du tissu en état de fonctionnement dans les galeries. Et puis, ces formes semi-vivantes sont très fragiles et requièrent une hôte stérile, un incubateur, un bioréacteur qui émule les conditions d'où elles sont originaires. Et puis, pour favoriser la croissance de ces cellules et les maintenir en vie pendant l'exposition, l'artiste doit leur procurer de la nourriture d'autres agents biologiques. Donc, ils font toute une performance avec ça, les soins quotidiens à ces sculptures et le côté performance de ces expositions. Les artistes appellent ces rituels quotidiens l'esthétique des soins, or the aesthetics of care. Les visiteurs sont invités à voir la période quotidienne quand ils nourrissent ces entités semi-vivantes, pendant lesquelles on met l'emphase sur la nécessité de prendre soin de ces nouvelles formes de vie. Mais, toutefois, pendant la fermeture de l'exposition, sonne le glas de ces entités semi-vivantes avant le démontage des installations, Cat Césure accomplisse un rituel de mise à mort, the killing rituals. Et puis comment elle sort tout simplement ces sculptures semi-vivantes de leur environnement stérile et les place dans les cercueils miniatures où elles meurent par contact sur notre environnement. Elles sont très fragiles. Donc en les nourrissant et puis en permettant la mort de ces sculptures semi-vivantes, Cat Césure expose la fragilité de ces formes de vie générées en laboratoire et confronte les visiteurs avec certains enjeux. Même l'esthétique des soins implique la fin éventuelle de ces soins, soulignant le pouvoir de vie et de la mort des humains, non seulement sur ces entités semi-vivantes, mais aussi sur toutes les autres formes de vie. Leur esthétique des soins dans leurs œuvres d'art titulaires force la confrontation des questions les plus fondamentales sur la nature de toute vie, humain et non humain, et même les entités semi-vivantes, et l'inévitabilité de certaines habitudes anthropocentriques, c'est-à-dire la mort des autres formes de vie pour maintenir et perpétuer la vie humaine. De plus, les nouveaux corps régénératifs promis par l'ingénierie tissulaire annoncent le démantèlement des conceptions traditionnelles du corps, de la chair et d'autres formes de vie. Des œuvres de bioart comme celle-ci révèlent que les discours ambiants sur la matière vivante deviennent de plus en plus inappropriés et caduques. Les différentes biosciences, le clonage, le génie tissulaire ou génétique ou autres biotechnologies illustrent l'habilité quasi divine des humains, artistes et scientifiques à manipuler la vie. Les bioscientifiques sont inévitablement engagés dans l'avancement des recherches dans les sphères jusqu'ici inconnues. Par ailleurs, pour pallier des dysfonctionnements du corps vieillissant. De l'autre côté, les expositions des bioartistes cités débat et nous incitent aussi à considérer les questions éthiques, philosophiques et enjeux vitaux qui seraient autrement invisibles et subsumés par l'autorité du discours scientifique. Donc, voilà, j'aimerais maintenant regarder un peu la loi aussi. On a regardé certains exemples exemples plus frappants de le bioart. Mais j'aimerais regarder deux voies, si on veut, qui touchent la loi. La première, c'est la breveté de la matière vivante. C'est quelque chose que les artistes regardent beaucoup, les bioartistes regardent beaucoup. Qui est propriétaire de votre corps et tout ça? Donc, c'est des questions. Et puis après, le cas de l'artiste qui est arrêté pour le bioterrorisme. Bon, premièrement, je parle de Larry Miller. Larry Miller est un artiste conceptuel qui s'est impliqué dans les débats de breveté de la matière vivante. Alors, voilà, ici, maintenant, je prends des choses des sites web des artistes, donc je ne les ai pas traduits. Elles disent, when the patenting of animals was approved by the Supreme Court of the U.S. in the 1980s, I reasoned that if DNA was to be commodified in the genetic revolution, then humans would need legal rights to their personal genomes. Donc, il a fait, comment on dit copyright en France? Ah, le droit d'auteur, même pour son corps. Ok, donc il a proclamé le droit d'auteur de son propre génome en 1989. Et puis après, il a fait plein d'actions publiques, c'est un artiste activiste, en distribuant les droits d'auteur, les formulaires de droits d'auteur internationalement dans 8 langues, et puis tout ça. Il a aussi fait des tasses de café, là, qu'il a laissé dans les places publiques, qui faisait aussi réfléchir aux gens qui les prenaient de ces problèmes. Donc, c'était un groupe qui s'appelle Creative Time. Et puis, bon, qui est propriétaire de vos gènes? Good question. Et puis, tout ça, et puis là, laisse même le droit l'empreinte sur la tasse. Et puis, ils disent copyright your DNA. You left some on this cup. J'espère que vous comprenez un peu l'anglais. Elle a fait aussi différentes expositions, et puis ça c'est juste un petit exemple où elle a fait, on a la licence, le sale agreement pour le droit d'auteur de le génome, et puis ça c'est pour sa sœur. Donc elle a fait donné toute cette information sur son génome, et puis elle a mis aussi ses cheveux, les morceaux de différentes parties de son corps pour peut-être éventuellement le cloner plus tard. Mais en fait, tout ça, c'est bien sûr des œuvres ou des performances ou des expositions qui sont pas sérieuses et un peu tongue-in-cheek, et puis qui veut vraiment qu'on réfléchisse sur les problèmes de le brevetage de la vie humaine. Mais un groupe d'artistes féministes, ceux qui s'appellent Sub Rosa, ont vraiment travaillé beaucoup sur ce problème et puis sur différents problèmes de biotechnologie. Pour le groupe artistique Sub Rosa, justement, l'art a une fonction importante de produire et de diffuser de la connaissance sur certaines pratiques biotechnologiques inquiétantes. À cet égard, une de leurs projets artistiques se concentre sur le corps par rapport aux technologies de reproduction. We create a public space, in these, where participants can directly experience and understand the social and material effects of the new digital and biotechnologies, including the appropriation of female biological material for research on women's lives. Mais c'est pas juste les femmes qui sont incluses dans ces problèmes. Donc, dans leur œuvre qui s'appelle, c'est une installation qui s'appelle Cell Track, Mapping the Appropriation of Life Materials, qui a été exposée à différents endroits deux fois. Et puis, ils ont aussi créé un site web. C'est dommage qu'on n'a pas d'Internet, on aurait pu le naviguer un tout petit peu. Mais sur leur site, le site web a le même nom. Sub Rosa, ici, présente le nouveau monde post-génome par un éventail de documents réels, d'histoires fictives racontées d'une manière ironique et par des manifestes. Maintenant, ils manifestent leur espoir et aussi leur désespoir face à un monde post-génome. Post-génome veut dire que le monde qui est né le jour où les scientifiques ont séquencé intégralement le génome humain. Le navigateur du site CellTrack peut trouver une carte géographique exacte indiquant les emplacements actuels des programmes de biodéfense ou des renseignements détaillés offerts par les National Institutes of Health sur les recherches sur les cellules souches. Il peut aussi, par exemple, y trouver des chroniques détaillées et des documents véridiques sur la marchandisation du vivant, notamment sur les brevets des gènes et des cellules humaines déjà acquis par certains intérêts capitalistes. Et il peut apprendre comment ces pratiques économiques reflètent les idées darwiniennes de la survivance le plus apte. Donc, dans les expositions, il y a les petites cartes et puis, bon, il faut lire les tous, mais on ne peut pas ici. Ici, c'est une qui était de Dr. Jonas Salk, la personne qui a créé la vaccination pour le polio, contre le polio, en 1955. Et puis, en réponse de questions de breveté sa vaccination, Salk a répondu, c'est les gens qui vont breveter. There is no patent. Could you patent the sun? Donc, une personne comme Jonas Salk, à cette époque-là, en 1955, trouvait que c'était inouï de penser qu'on pouvait breveter la vie ou une vaccination. Et puis donc, Seb Rosa dit « why cell track ?» pourquoi ils ont fait énormément de recherches sur tous ces problèmes qui est documenté dans cette exposition. Donc je vais lire en anglais ce qu'ils disent. Genetic engineering, including embryonic stem cell research, has opened the door to the corporate ownership and patenting of life and the world's genetic heritage. Under U.S. patent law and new global laws like TRIPS, trade-related aspects of intellectual property, the genes of human beings and other life forms may be patented if the inventor can demonstrate novelty, non-obviousness, and usefulness. The sequencing of the human genome has increased the speed of discovery of many genes and gene sequences in our bodies and the consequent patenting and licensing of this knowledge. As a result, you may no longer own certain gene sequences in your own body, as they have been already patented by a scientist or a corporation. Genetic engineering is raising profound questions about who should own and control life and material bodies or organisms, be they plant, animal, or human. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui pour lequel il travaille. Et puis dans cette exposition, il donne plusieurs cas. Par exemple, en 1980, le U.S. Supreme Court issues the first patent in the field of genetic engineering to General Electric for the invention by microbiologist Chakraborty of an oil-ingesting bacteria. Et puis l'inventeur lui-même dit Chakraborty. Oui, je l'ai remercié. Il exprime surprise, disant que he had not invented, il n'a rien inventé. Alors, encore si on va sur le site web, on peut lire les liens ou chaque endroit où il y a les trucs rouges, les boules rouges, et puis chaque endroit démontre un exemple de le brevetage d'une partie du corps par certaines corporations scientifiques, et certaines sont avec des cas qui tous avec des cas précis et la plupart du temps obtenu sans la permission de la personne. Et puis certaines sont aussi en cours ou actuellement. Donc Seb Rosa crée ainsi une cartographie du monde post-génome qui expose comment les pratiques biotechnologiques s'approprient la matière vivante. Mais parmi ces documents objectifs du post-génome, le site et puis l'exposition CellTrack de Seb Rosa intercale aussi des historiettes amusantes, par exemple celle d'une petite cellule souche qui ne voulait pas être comme tous les autres, et puis une cellule souche est non différenciée et puis elle peut devenir n'importe quoi. Voilà. Dans leur manifeste aussi, Seb Rosa déclare que le monde post-génome ne doit surtout pas présenter une opportunité unique pour des monopoles corporatifs et que les recherches et les développements scientifiques des biotechnologies pharmaceutiques, médicales et agricoles ne doivent pas être faites qu'au nom du profit capitaliste. Sur Seb Rosa, seulement des pratiques courantes de breveter la matière vivante, de l'exploitation capitaliste de génie génétique pour les buts militaires ou la biodéfense. Tout en montrant les dangers insidieux inhérents aux pratiques biotechnologiques dans le monde post-génome, Seb Rosa n'est pas pour autant contre cette recherche, ni contre l'amélioration de la condition humaine, mais elle propose des alternatives pour un monde post-génome. Le manifeste du sub-Rosa chante alors un monde post-génome qui reconnaît la science expérimentale ouverte, subventionnée par les fonds publics, qui a pour but d'utilisation démocratique et bénéficier de la conscience génétique. Je n'ai pas le manifeste parce que sur le site web, c'est en flash, donc c'est difficile à copier, mais sub-Rosa a soumis à Louise Poisson et moi un essai qui n'est pas encore publié, qui démontrent un peu leurs idées là-dessus. Ils disent, with CellTrack and other projects, Sub-Rosa aims to raise the possibility of establishing public, non-proprietary tissue, blood and organ banks of non-proprietary and non-coercively derived biological materials that could be made available to independent scientists and non-profit researchers conducting experimental or contestational research in the public domain and for the common good. Things can be thought differently. Let the research continue. Donc, ils ne sont pas contre la recherche biotechnologique en tant que telle, mais ils sont contre que ça soit mené par les idées du profit et puis de propriétaire. Je pense qu'il faut dire peut-être, surtout que vous êtes vraiment dans un domaine différent, que des artistes comme Sub-Rosa sont un peu comme les artistes de l'avant garde historique du siècle passé, du 20e siècle, parce que les artistes avant-garde voulaient intégrer l'art et la praxis sociale. Ils ne voulaient pas que l'art soit juste une œuvre esthétique à contempler. Alors, ce qu'on voit avec plusieurs de ces artistes, c'est justement qu'ils explore vraiment la vie importante dans notre ère, les pratiques biotechnologiques, et puis pose des questions importantes. Donc, Sub-Rosa ont alors beaucoup de chemin à faire, je pense, puisque nous ne sommes juste au seuil d'une grande révolution biotechnologique avec beaucoup d'enjeux que les artistes comme eux démontrent. Le Critical Art Ensemble démontre que ce n'est pas une voie facile, même pour des artistes. Le Critical Art Ensemble ont créé plusieurs œuvres. Ici, c'est une qui s'appelle Gentera pendant 10 ans et qui crée des performances et des expositions internationalement. Et comme Sub-Rosa, ils ne sont pas contre la recherche et les pratiques biotechnologiques. Dans leurs performances didactiques, ils démontrent les enjeux, les problématiques et désirs de montrer les effets positifs et négatifs des biotechnologies. Donc, Gentera est un exemple et une performance didactique qui a pour but d'éduquer le public des enjeux des organismes transgéniques, etc. En mai 2004, Steve Kurtz, un des fondateurs du groupe Critical Art Ensemble, et il est aussi professeur à la State University of New York in Buffalo, et sa femme était en train de préparer une exposition qui s'appelle Free Range Grain. Steve Kurtz est la personne à droite. Free Range Grain, c'est un projet qui voulait explorer les organismes génétiquement modifiés. Ils avaient donc dans leur maison des produits pour monter l'exposition qui devait se passer au Massachusetts Museum of Contemporary Art. Mais malheureusement, juste à ce moment-là, Steve Kurtz a subitement perdu sa femme suite à une crise cardiaque. Et puis en appelant le 911, tout un cauchemar s'est déclenché pour l'artiste, trouvant les produits suspicieux dans l'appartement. La police a appelé le FBI et puis en route pour le salon funéraire le lendemain, Steve Kurtz a été arrêté par des agents du FBI et le Joint Terrorism Task Force. qui disent qu'il l'investiguait pour le bioterrorisme. At no point during the 22 hours, je prie tout ça, c'est de le site web de Steve Kurtz, donc c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit. At no point during the 22 hours, Kurtz was held and questioned, did the agents Mirandize him or inform him he could leave? I don't know what Mirandize means exactly. Yeah, that's what I thought. Okay, and pendant ce temps, ils ont fouillé sa maison. Well, let's read it in English. Meanwhile, agents from numerous federal law enforcement agencies, including five regional branches of the FBI, the Joint Terrorism Task Force, Homeland Security, the Department of Defense, and the Buffalo Police, Fire Department, and State Marshal's Office descended on Kurtz's home in hazmat suits. Cordoning off half a block around his home, they seized his cat, car, computers, manuscripts, books, equipment, and even his wife's body from the county coroner for further analysis. The Erie County Health Department condemned his house as a possible health risk. Et puis bon, on peut dire que c'était avec raison. Ils avaient des produits, c'était le post le 11 septembre, 9/11 et tout ça. Mais par la suite, ils ont déclaré qu'ils avaient, il y avait aucun risque. The New York State Commissioner of Public Health determined that the materials seized by the FBI posed no public safety risk. All the materials are legal and commonly used for scientific education and research activities in universities and high schools and are universally regarded by scientists as safe. C'est vrai, un artiste dans sa maison ne peut pas se procurer des agents, ou difficilement des agents dangereux. Nevertheless, today, Steve Kurtz and Robert Farrell, professor of genetics at the University of Pittsburgh's Graduate School of Public Health. Farrell, c'est le professeur qui lui a envoyé des produits chimiques comme il faisait pendant pour toutes ses expositions. Maintenant, they face a possible 20 years in prison in what has become increasingly clear is a politically motivated attempt to silence an artist and scientist whose work is critical of government policy. Alors, c'est toujours en route, jusqu'à 3 ans et demi plus tard. To this day, the FBI has refused to return most of the tens of thousands of dollars worth of compounded materials, computers, etc., including a book Kurtz was working on. Kurtz and his acclaimed art collective, Critical Art Ensemble, were using the harmless bacteria and materials in several projects. Genterra, je vous ai montré tout à l'heure cette œuvre où elle voulait éduquer les gens pour des choses positives et négatives sur les organismes transgéniques. Et puis aussi sur un autre, il travaillait aussi sur un deuxième projet qui s'appelle Marching Plague, qui était commissionné par The Art Catalyst in the UK, en Grande-Bretagne, and received its American premiere in the 2006 Whitney Biennale. Tout ça juste pour montrer que c'est un artiste reconnu international par les grandes institutions d'art. Et puis Marching Plague used the benign bacteria, je ne vais pas le dire, in an installation performance and film dedicated to demystifying the issues surrounding germ warfare. Dans le livre que j'ai coédité avec Louise Poisson, il a d'ailleurs écrit un article sur justement sur ça. Et par la suite, il a écrit un livre qui s'appelle Marching Plague. Le manuscrit a été pris par le FBI, qui n'était pas retourné, mais il a reconstitué les informations et puis il a écrit le livre. Et puis tous ces livres, il y a plusieurs, sont librement, on peut les prendre sans droit d'auteur sur son site web. Ils sont tous en PDF et puis ils disent que vous pouvez le prendre. Donc, elle est là, vous pouvez l'avoir. Et puis, donc, c'est toujours, elle a toujours le problème. While most observers assumed the task force would realize its initial investigation was a terrible mistake, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas juste dit que c'était une erreur et puis là, c'est tombé. Au contraire, the feds have instead chosen to press their case against Steve Kurtz and Robert Farrell. Despite the Public Health Commissioner's conclusion as to the safety of Kurtz's materials and despite the fact that that the FBI's own field and laboratory tests showed they were not harmful to people or the environment, it would actually be impossible to make any sort of weaponized or dangerous germ from them. The U.S. District Attorney continues to waste vast sums of public money on this outrageous and politically motivated persecution. Alors, juste il y a quelques jours, Dr. Robert Farrell a accepté un plea bargain. Je ne sais pas comment on dit ça en français, et puis ça c'était quelque chose qui était écrit dans le journal à Buffalo, parce que il voulait pas, il avait des problèmes de santé, et puis il voulait pas passer des années en cours et tout ça. Donc, il y a quelques jours, il a accepté ça. Alors, ça c'est une petite citation de sa femme. From the beginning, this has been a persecution, not a prosecution. Although I have not seen the final agreement of the plea bargain, the initial versions contained incorrect and irrelevant information, said Dr. Deanne Rake Farrell, Dr. Farrell's wife and associate professor of special education and clinical services at Indiana University of Pennsylvania. Bob is a 27-year survivor of non-Hodgkin's lymphoma, which has reoccurred numerous times. He has also had malignant melanoma. Since this whole nightmare began, Bob has had two minor strokes and a major stroke, which required months of rehabilitation. Donc, il a accepté le plea bargain. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est sur le site de la Critical Art Ensemble. Ils disent, the government is vigorously attempting to prosecute two defendants in a case where no one has been injured and no one has been defrauded. The materials found in Dr. Kurtz's house were obtained legally and used safely by the artist. After 3.5 years of investigation and prosecution, the case still revolves around $256 worth of common science research materials that were used in artworks by a highly visible and respected group of artists. Donc, les enjeux. The issues here are fundamental freedom of speech, freedom of expression, and academic freedom. The case is precedent-setting and will help determine whether artists, intellectuals, and anyone exercising their right to free speech can be criminalized merely for their ideas in fundamental violation of the United States Constitution. The case of Steve Kurtz is one more example of the contemporary abuse of power by the Justice Department, that of continually accusing innocent civilians of terrorism and subsequently ruining their lives. The DOJ, I'm not sure what that, the District of Justice, tactics recall the McCarthy trials of the 1950s, when powerful members of government also ruined the lives of many innocent citizens. Like that infamous challenge to democracy, this is a test case for how far the government can reach unopposed into colleges, universities, museums, and even our homes to silence free speech, thought, and inquiry. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand l'art rencontre la science, on rencontre parfois aussi la loi. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer dans ces exemples. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions.
Moi, je voulais juste faire quelques commentaires avant qu'on prenne
des
questions.
5 minutes. J'ai pris peut-être trop de temps.
Non, c'est vraiment agréable. Moi, quand j'ai décidé qu'on va faire un petit atelier sur le bio-art, je me suis dit, OK, mais il faut voir qu'est-ce qui se passe ailleurs par rapport à ce sujet dans les autres facultés de droit, parce que j'ai vu qu'ici, on ne faisait rien. Donc, on n'a pas traité vraiment le sujet. Donc, j'ai envoyé des emails aux autres professeurs, surtout ceux qui travaillent dans la propriété intellectuelle. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous en pensez de bio-art? Est-ce que vous travaillez dans ça? Des questions comme ça. Puis, je dirais 9 fois sur 10, j'avais une réponse qui me disait, c'est quoi ça? Donc, on a un problème là. Mon idée a été de se voir, comme juriste, on est impliqué dans ça, dans jusqu'à quel point. Puis, je me suis rendu compte, au Canada en tout cas, on n'est vraiment pas impliqué. J'étais allée voir aux États, puis c'est un petit peu mieux, mais pas fameux non plus. Aux États, ce trimestre, mois de septembre jusqu'à mon septembre, il y a 17, que moi je peux trouver en tout cas, conférence sur BioArts. Puis au Canada, il y a deux que moi je peux trouver. Donc, c'est pas qu'il y a plus, mais j'ai cherché pas mal partout.
C'est la ratio habituelle,
sur 10. Ce que j'ai trouvé, quand j'ai vu, c'était quoi les questions qui étaient abordées dans toutes ces conférences. Et moi, je me sens, et de toutes les questions, semblaient des questions que les juristes travaillent avec chaque jour, surtout les juristes qui travaillent dans le domaine de propriété intellectuelle. Je peux vous donner un exemple. Il y avait une conférence à l'Université de Toronto au mois de mai passé, 2007, qui était sur la bio-art. Il y avait un panel qui s'appelait Art Science and the Emotional Response. Et les questions qui étaient abordées dans ce panel discussion étaient les suivantes. What is behind the process of discovery? How does it manifest itself? How does society's perceived role of the artist or artists influence their work? As the work is released into the public domain, how does it translate into as a societal response? Now, n'importe qui travaille avec la propriété intellectuelle, surtout les impacts de la propriété intellectuelle sur la société, mais on se pose ces questions-là quasiment chaque jour. Donc, je me suis dit, là, c'est sûr, il y a un jury sur ce salon. Et évidemment, il n'y avait pas. Donc, je suis allée voir ailleurs, il y a quasiment pas. Il y a des fois les gens qui travaillent avec les questions d'éthique, mais les questions juridiques, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Il y a toujours la science qui est représentée très, très bien avec les professeurs de molecular and cellular biology, microbiology, immunology, toutes sortes de ologies. Il y a toujours les artistes qui sont vraiment très bien représentés. Des fois, comme je dis, les gens qui travaillent avec les questions d'éthique, mais les juristes, c'est comme... sont disparus quelque part, ils ne sont vraiment pas impliqués. Donc, je me suis posé la question, pourquoi? Comment ça se fait? Parce que c'est quand même des questions, c'est super intéressant, c'est des questions juridiques qui touchent comme Dr. Dodler nous avait expliqué, toutes sortes des aspects de bio-art, c'est pas juste les aspects de propriété intellectuelle, il y a des aspects de bioterrorisme, mail fraud, toutes sortes de choses, mais on ne voit pas de juristes. On voit des juristes dans les autres sortes de conférences sur l'art, mais pas bio-art. Donc, moi, je me suis dit, OK, pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison. Donc, j'étais allée voir qu'est-ce que les juristes ont dit là-dessus, puis j'ai trouvé un article qui était écrit dans le Columbian Journal of Law and Art, à automne 2005, et c'était justement sur l'affaire de Stephen Kurtz. Mais qu'est-ce que l'auteur, qui s'appelle Joyce Locke, a dit? Et elle a donné des exemples où le droit a réagi mal, je peux dire, dans les autres cas de l'art émergent, or emergent art. Donc, un art form, just coming, qui a toutes sortes d'implications pour la société, le droit a réagi dans une façon forte, puis sans vraiment prendre le temps de comprendre comment ça marche l'affaire. Donc, il y a selon elle, je le crois, une divide qu'elle dit entre emerging art and the law, parce que the law is so conservative in its way of thinking, and emergent art is so on the edge of new art forms que les deux ont la misère à se parler. Donc, elle a donné quelques exemples, je vais juste donner trois ou quatre. In 1989, two exhibitions containing photos of Mapplethorpe and Serrano came under attack by members of Congress because the galleries were funded by the National Endowment for the Arts. These two exhibitions, the first was called The Perfect Moment, included 175 photographs of portraits and flowers, some of which contained homoerotic images. The other one, Serrano, was a photograph of, it was called Piss Christ, and it was a photograph of a crucifix immersed in urine. C'était son façon de dire qu'est-ce qu'il y avait à dire, mais le Congrès n'a pas aimé ça. Donc, ils ont changé complètement comment le NEA donne les subventions aux artistes. Donc, maintenant, we have to take into consideration general standards of decency and respect for diverse beliefs of the American public, and the Congress has prohibited the NEA from making grants to programs, quote, programs that are determined to be obscene. Il n'y a pas de question, la plupart des projets de BioArts tombent dans cette gray zone of obscene. And, quote, prohibited from receiving financial assistance from NEA. Là, quand on lit ça, une juriste aurait pensé, OK, là, c'est réservé pour les cas extrêmes. Comme dire les oreilles sur une souris ou quelque chose comme ça. Mais juste après qu'ils ont changé leur façon de faire, Karen Finley, a performance artist, was denied NEA funding as a result of this reform grant-making process. Finley was denied funding because the NEA deemed her art, which involved her performing as a chocolate-covered nude, inappropriate. Encore, je pense pas que ça tombe dans le truc obscène extrême, mais ça marchait pas avec le NEA. Un autre couple d'exemples. In 1990, Jock Sturgis, a photographer, opened his door to find federal and state police ready to embark on a search and seizure. Plus ou moins de même façon avec Stephen Kurtz. And they took all his photographs, prints, negatives, equipment, and business records. Because Mr. Sturgis, there was some nude photographs of adults and children, but those photographs were commissioned as family portraits by the family members. And they were made at beaches where nudity was allowed. The photographs displayed parents sitting or lying in the sand with their children. Everyone in the photographs were clearly naked, but posed in a way to avoid showing frontal nudity. Even though the grand jury declined to indict Sturgis with child pornography charges, parce que la police, that's what they said, it's child pornography, il a eu la misère à continuer son business parce que beaucoup de ses clients avaient peur de continuer l'utiliser comme photographe parce que ils ont eu la misère à récupérer leurs photographes, their family photos, from the police. Puis, une dernière cas, ce serait JFG Bond. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine des devises, American and international money. And he was arrested under counterfeiting law. And because his drawings were, according to authorities, too close to a real specimen. And of course, once again, he was the 11th Circuit Court reversed the lower court's ruling. But nonetheless, it took years, and in the meantime, he couldn't practice his art. So the examples sort of go on and on and on. And so when I spoke to the artistic community side, they were basically like, we're just not comfortable. On n'est pas confortable avec la façon que les juristes voient nos œuvres d'art. Parce que pour nous, c'est une œuvre d'art. Pour les autres, ils ont une façon de calculer l'affaire en lieu de juste l'apprécier pour qu'est-ce que c'est. So, moi, en tout cas, ce que j'aimerais voir est une collaboration entre les artistes dans les arts émergents, in emerging arts, et le monde de droit, parce que, évidemment, à un moment donné, il faut s'impliquer. On n'a pas le choix, mais on aimerait ça qu'on fait ça dans une façon plus juste, more understanding, shown towards the artist. Et pas comme on l'a fait auparavant, dans la façon que on a décidé, ouais, soit c'est obscène, soit ceci, soit là, sans vraiment comprendre c'est quoi la pensée en arrière de ça, de l'artiste. Donc, anyway, that's what I found when I was, one, there was a complete lack of knowledge of what the heck is bio art, and two, on the artist side, it was, well, we have all these examples of overreacting on the law side, so we're not feeling comfortable of having these collaborations with legal type people. So the closest they come to the law is the ethics people, which usually fall in philosophy, which is a crush, so it could be both. But I think there's room to maneuver so that we can maybe implicate ourselves a little better in that world. Donc, on va prendre des questions. Oh, je suis servie. Je suis ma gueule.
Puisqu'on parle de censure, il me semble qu'il y a plusieurs questions qu'il faut quand même formuler. Il y a une question de propriété intellectuelle. Et sur cette question-là, je dirais d'abord, à première vue, la vidéo art, c'est simplement une nouvelle façon d'exprimer.
Oui.
Et le droit d'auteur a toujours connu de nouvelles façons d'exprimer, il n'y a rien spécifiquement là. Que la technique d'expression pose elle-même des problèmes. Éthique à la rigueur, ça c'est peut-être un peu nouveau, mais sans doute on peut combiner des deux trucs. On peut se demander pourquoi il est essentiel de façonner ces chimères plutôt que de les dessiner. Je veux dire, on connaît le palais Gisèle qui fait appel à ce genre d'idées. Il y a des jeux de science-fiction, il y a Ubisoft qui en fabrique tout le temps. Les problèmes moraux que l'on veut, sur lesquels on veut attirer notre attention peuvent être sans doute proposés de toutes sortes de façons. Maintenant, loin de moi de dire, d'interdire à des artistes de se servir d'un moyen d'expression quelconque. Mais il faut quand même admettre que quand on manipule des êtres vivants, forcément ça va poser des problèmes éthiques. Quand bien même qu'ensuite on arrive à exprimer quelque chose qui serait un œuvre artistique. Ça c'est d'une part. D'autre part, alors là, toujours dans la propriété intellectuelle, je vais soulever une question de brevet. Alors évidemment, il ne faut pas confondre droit d'auteur et brevet. Le droit d'auteur, c'est l'expression. Le brevet, c'est des inventions, mais qui ont une vocation industrielle de vente. Alors, breveter, comment dire, son propre code ADN, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Dire que, alors, avec le brevet, on est propriétaire de son corps ou qu'on ne le serait plus, il me semble que c'est une expression trop vaste. Juridiquement, ça n'a pas de sens. Il y a un problème avec le brevetage des séquences génétiques, ça j'en conviens. Le problème est bien illustré par toute la discussion et tous les litiges qu'il y a eu au sujet des brevets BRCA breast cancer. Un et deux. Les Américains l'ont admis sans trop de problème. L'entreprise en question, effectivement, a voulu exercer son monopole, a dit tout le monde, vous avez utilisé notre test. J'allais envoyer les résultats de la test au Utah. Mais il faut aussi qu'en grade, ne restez pas seulement aux États-Unis, allez voir ce qui s'est discuté en Europe là-dessus. On a dit, ben, on va retenir le BRCA2, et on l'a donné à, je pense, une fondation britannique qui rend ce savoir disponible à quiconque fait la recherche. Et donc, en partie, les problèmes sont très calqués sur la réalité américaine.
Sur
la réalité
les services américains.
Nous ne pensons pas tous de la même façon. Ouais. Notre Cour suprême a refusé la restabilité de la solidarité. Déjà ici, le débat se pose différemment. En Europe, le débat se pose différemment. Donc faites attention à ça. Troisième réflexion. Bien entendu, le cas du scientifique dont on a saisi le matériel, alors que c'est parfaitement inoffensif, moralement répugnant. On est tout à fait d'accord. D'accord. Arrivez-vous, la peur est mauvaise conseillère, mais la peur est mauvaise conseillère depuis le 9 septembre 2001. Et alors, la peur consigne en apparence les autorités américaines à la frontière, à toutes sortes de procédures. Et ici, on voit un exemple où, encore c'est la peur qui inspire des formes de censure. C'est toujours une mauvaise idée. Mais rappelez-vous, dans les années 20, on a interdit de...
Il n'y a rien là.
Je veux dire, ce n'est pas spécifique, la censure de tous les temps, il faut le combattre, certes. Mais surtout, ne dites pas que tous les jurés sont des mécréants pour autant.
Les mécréants.
La censure, c'est une affaire particulière, c'est la branche des jurés.
Ben, je pense que Steve Kurtz le dit, c'est très américain.
C'est surtout, c'est un coin particulier de l'univers des juristes, c'est le droit criminel.
Ouais.
C'est pas les autres juristes. C'est bien qu'on ait des travaux, mais au moins, on soit des travaux pour les bonnes raisons.
Ouais.
sur les questions qui ont de l'importance.
Ouais. Non, mais c'est sûr.
C'est bien qu'alors, dans le discours, c'est peut-être la dernière main, dans le discours de la prosa, faisons la recherche, mettons ça...
Non propriétaire.
Il faut se rappeler que dans les fondements des brevets, on a toujours dit qu'on ne veut pas protéger les pures idées, les fondements de la science, simplement parce que l'effet monopolistique serait trop fort. Et ça, il faut le partager. Vous rappelez aussi, ça fait pas de politique, aux États-Unis, une des grandes pharmaceutiques Merck, avec l'Université de Saint-Louis, a décidé de mettre à la disposition tout ce qu'il avait découvert dans le domaine génétique pour éviter que ce soit breveté. Mais enfin, cette démarche reconnaît quand même que le brevet, là où c'est proprement appliqué, a une fonction incitative tout à fait utile.
Je pense pas qu'ils sont contre le brevet, mais que ce soit dans le domaine public.
C'est un discours qui est un peu trop sanglant.
Ah, ok. Est-ce que je peux répondre à certains de vos commentaires? C'est sûr. Premièrement, le côté censure, je pense que c'est une question très importante. Et puis c'est souvent quelque chose qu'on soulève quand on parle des bioartistes. Comment est-ce qu'on peut critiquer quelque chose en faisant soi-même utilisant ces techniques génétiques? Et puis je pense que tout simplement de dessiner un lapin vert. Ouais, d'ailleurs, il l'a fait. Et c'est juste une Photoshop image. N'est peut-être pas assez puissant. Il faut vraiment... D'abord, les artistes ont toujours travaillé avec les nouveaux médias. Maintenant, c'est le média, disons, wet. Je pense que, comme vous dites, on ne peut pas le censurer, mais je pense que ça a aussi plus de puissance quand ils le font réellement que faisant une représentation. Une chose aussi, c'est que l'artiste souvent dit que c'est pas à l'artiste, à l'artiste il faut se soucier ou avoir peur. C'est le scientifique qui est, surtout les corporations scientifiques qui est menée par le profit uniquement. Et puis le livre d'ailleurs de Margaret Atwood, Oryx et Craig, est un exemple parfait où elle démontre vraiment le cheminement de ce genre de pratique où quand c'est juste les corporations avec un but du bottom line qui mène à ce genre d'expérimentation. Alors, et puis pour le partage de son propre corps, je pense que l'artiste voulait juste être ironique, il n'était pas sérieux, le fait de faire son copyright, c'était vraiment pour montrer, et puis je pense que la plupart des artistes, surtout ceux que je vous ai montré, sont vraiment didactiques, c'est comme des éducateurs en fait, et qui montrent et qui veulent choquer pour qu'on puisse réfléchir à ces problèmes là. Et puis,
juridiquement,
juridiquement, ça n'a pas de sens. Mais l'art n'a pas besoin d'avoir du sens. Oui, c'est farfelu, absolument. Et puis, c'est pas le but d'être que ce soit juridiquement possible.
Tiens, dans ce cas-là, le discours
social, il n'y a pas besoin d'être sensé au physiquement.
Oui, mais je vais dire là, à ce moment-là, tout est permis.
Oui, tout est permis. Justement, pour les...
Je veux exprimer l'horreur de la torture.
Oui.
Est-ce que je dois me permettre de prendre des êtres vivants humains, les torturer pour bien montrer les horreurs de la torture? C'est complètement idiot. Et donc, il y a des limites aux moyens d'expression selon le cas.
Oui. Non, c'est sûr.
On veut créer des vivants simplement à titre d'objet d'art. Il y a des limites à ça.
Oui. Non, c'est sûr que même de manipuler le vivant, comme le lapin, il faut tuer ou il faut couper le mère pour prendre les œufs, tout ça. Mais les scientifiques le font. Mais on peut dire pourquoi un artiste le fait. Ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est pas l'artiste qui l'a fait. C'est les scientifiques qui l'ont fait pour lui. Il a payé 25 000 $ pour ce lapin. Cette lapine. Mais c'est sûr, mais les artistes, justement, oui, c'est farfelu. Ils font n'importe quoi, mais toujours avec une idée derrière. Donc, ils ne sont pas comme les scientifiques et puis ils ne sont pas comme les juristes. Ils sont à part, mais je pense que les trois domaines, si on peut, ou disciplines, peuvent se rencontrer souvent, mais les scientifiques qui collaborent avec les artistes pour leurs projets, mais pour les juristes, ça c'est une question que j'aimerais poser à Constantia. Je ne sais pas comment les juristes pourraient s'impliquer.
I think there's a couple of things here. One, I think even the jurists sont pas d'accord une avec l'autre sur les questions de la propriété intellectuelle. Puis je pense pas qu'on peut dire que une brevet c'est ça ou les juristes sont comme ça par rapport à les brevets. Il y a des gros débats là-dessus. Puis je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. Deuxièmement, je veux dire que il y a en Western, University of Western Australia, quelque chose qui s'appelle Symbiotica. C'est un laboratoire qui est dédié au bio-art. Ça se fait dans une institution universitaire bien connue partout au monde. Et ils disent directement dans leur objectif que it provides an opportunity for researchers to pursue curiosity-based explorations free of the demands and constraints associated with the current culture of scientific research while still complying with regulations. And what they basically also say is that they can, in fact, and promote completely frivolous, or what scientifically is deemed completely frivolous work. Mais il y a une valeur artistique là-dessus qui n'a rien à voir avec que ça change juridiquement ou scientifiquement. Donc ça, c'est des problèmes. Et les questions qui posent, je pense que ça soulève ce que je viens de dire, et ça, c'est que les juristes ne sont pas impliqués dans ce domaine. Et donc, ça ne m'étonne pas beaucoup qu'il y a pas mal d'artistes qui courent partout puis ils donnent des idées par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport à le droit en général qui n'est pas tout à fait bien fondé. Donc, il me semble que si on avait un couple de juristes quelque part dans ces conférences pour dire, ben, en réalité, tu ne peux pas avoir une brevet comme ça. Ça n'a pas de sens, c'est impossible. Mais, quand on lit beaucoup de choses qui sont écrites par des gens qui ne sont pas des experts dans la propriété intellectuelle, on a l'impression qu'on peut avoir une brevet sur n'importe quoi. Donc,
j'aborderai dans le même sens, justement, c'est que souvent, dans des circonstances comme celle-là, il se fait un mauvais usage de la propriété intellectuelle, ou plutôt du vocabulaire de la propriété intellectuelle qui est brandi à droite, à gauche, pour dire un peu n'importe quoi, qui donne une très mauvaise image parce que, justement, ces artistes qui ont une démarche artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose, veulent quand même s'exprimer et il y a toujours quelque chose de négatif à vouloir censurer des artistes. L'impression générale est toujours mauvaise à ce moment-là. Et l'impression générale qui se dégage de cet esprit de censure pour une forme d'art qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie rejaillit ensuite sur le mauvais langage qui est utilisé de la propriété intellectuelle et fait en sorte que le public général, ensuite, va embarquer là-dedans et va s'imaginer qu'effectivement, tout ce qui se dit sur la propriété intellectuelle par ces artistes-là à propos de profiter leur corps, avoir un droit d'auteur sur leur vie, sur leur ADN ou quoi que ce soit, ils vont penser que c'est vrai parce qu'au départ, il y a beaucoup de sympathie pour l'artiste, pour celui qui s'exprime comme ça. Et donc, ça permet de perpétuer de mauvaises impressions sur ce que fait la propriété intellectuelle, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'incompréhension et d'ignorance.
Et ça, ça arrive dans l'autre sens aussi, où les juristes font pas 2-5 ans pour aller dans ces laboratoires-là, puis voir comment l'artiste travaille. C'est quoi? Je suis certain, je peux pas dire certain, mais je dirais, il y a peut-être 3 juristes qui ont jamais assisté à une exhibition of bio art. Donc, on s'imagine, nous autres, que sort des monstres, et tout ça, sans vraiment prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Donc, je pense que le malentendu, si on peut l'appeler ça, ça se passe dans les deux sens.
Moi, je voudrais faire une intervention dans un autre sens. D'abord, dire merci. Merci à cette conférencière-là, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette conférence. J'ai beaucoup appris. Et vous avez commencé en disant que c'est étonnant de venir dans une faculté de droit.
Ouais.
Eh bien, moi, je vais vous étonner à votre tour. Je suis professeure de droit, mais j'enseigne au docteur en sciences humaines appliquées. Et j'étais fascinée par la récurrence des thèmes qui nous intéressent, nous, en sciences humaines appliquées, parce qu'on s'intéresse beaucoup, nous, au lien entre sciences et art, et je m'y intéresse en tant que juriste. Donc, il y a vraiment beaucoup de sortes de juristes, et pas seulement le juriste central, quoique un auteur que je connais bien, Jean Libellé, constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de popularité pour le rôle de censeur à l'intérieur des juristes qui le lavent, parce que le juriste peut avoir plusieurs mots. Je reviens au lien entre science et art et science. Chez nous, on s'intéresse à l'idée de pratique professionnelle et on a montré, par exemple, que l'idée de pratique professionnelle comme activité rationnelle, cartésienne, scientifique, coupée de l'expression artistique, de la recherche esthétique, de l'intuition, c'est un produit positif. Purement conséquent, etc. Et finalement, je constate, je fais un parallèle entre ce que vous faites et nous, c'est que vous, chez vous, le bio-artiste se sert de l'œuvre d'art pour mettre en évidence des enjeux éthiques et politiques cachés, occultés par le discours scientifique. Alors que chez nous, le mouvement, ça va être de se servir de la dimension artistique de la pratique professionnelle pour encore montrer des enjeux éthiques et politiques occultés par le discours positiviste dominant. Donc, la récurrence des thèmes est assez fascinante.
Oui.
Moi, j'ai aimé apprendre sur le bio-art. J'ai beaucoup pensé à une explication de Gérard Mandel dans son histoire de l'autorité qui parle de l'art moderne. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Donc, c'est assez intéressant parce qu'il va parler beaucoup du bio-art là-dedans. Mais en tout cas, bref, merci à Constantia. Et puis, moi, j'apprécie.
Mais je pense que, répondre à ma question tout à l'heure, vous avez répondu, justement, les juristes pourraient peut-être clarifier les choses légales, de montrer les subtilités des différences et tout ça. Je pense que c'est ça, ou éduquer un peu les gens. Mais j'ai l'impression que, et puis moi, comme je ne suis pas une experte, je ne peux pas juger, mais j'ai l'impression quand même que Sub Rosa ont fait énormément de recherches et puis tous les faits qu'ils ont montrés dans leurs expositions et sur le site web est factuel. C'est des choses vraies. Maintenant, ils le montrent peut-être dans une manière un peu utopienne et tout ça. Ça, c'est vrai, mais... bon, c'est je pense que quand même du breveter les matières vivantes des personnes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais justement au Subtle Technologies, au workshop, atelier donné par Orne Katz, la personne qui crée de l'art tissulaire. Et puis, on a utilisé les vraies cellules vivantes, les lignées de les cellules vivantes. Et puis, une des cellules s'appelle la HeLa cell.
Nobel, qui a été pris sans permission d'une femme en 1950 qui s'appelle Henrietta quelque chose, donc le nom. Elle avait un cancer très spécial et puis les cellules de son corps étaient prises et puis ils ont fait une lignée de cellules qui sont utilisées couramment depuis 50 ans par les scientifiques. Maintenant, on pourrait dire, ben, au moins, sa mort sert à quelque chose, c'est bien. Et puis, je ne sais pas où le brevetage ou rentre là-dedans, si c'est breveté. En tout cas, une corporation est propriétaire, je crois, de cette healer cell qui le vend à tous les laboratoires qui ont besoin de faire la recherche parce que c'est une cellule immortelle, parce que c'est des cancérigènes et tout ça. Donc, ce genre de choses, c'est, je pense que, en fait, c'est là les problèmes que les artistes ou que les autres soulèvent, que comment est-ce qu'on peut être propriétaire de la matière vivante sans que la personne d'où c'est pris est d'accord. Et puis, bon, il y a beaucoup de litigation en ce moment à cause de ça, mais au moins qu'il se montre de ce brosse.
En fait, la Cour suprême en 1980, qui a jugé avec chaque partie, ça veut dire qu'en fait, on ne brevette pas nécessairement de matière vivante, seulement le fait d'une invention. Parce que bon, la Cour suprême a fait la distinction entre une découverte et la matière vivante. Et c'est à ce moment-là que, un coup, qu'il y a l'intervention de l'homme dans la recherche, c'est à ce moment-là que le brevet est possible. Ça devient un peu quelque chose d'artificiel. Et comme le scientifique a modifié génétiquement quelque chose de naturel, on peut, en ce sens-là, brosser la matière. Et c'est le raisonnement que la Cour suprême a utilisé à ce moment-là. Oui, donc, il y a une distinction entre le naturel et
l'invention. Oui.
Mais le degré de modification,
c'était
pas obligé d'être large. Donc, je veux dire, et depuis 1980, il y a des autres choses qui se passent dans ce domaine qui fait en sorte que il y a beaucoup de monde qui ont la misère à avoir la différence entre qu'est-ce que les scientifiques disent que c'est quelque chose de modifié puis le truc naturel, mais c'est sur un brevet quand même.
Oui, donc, on comprend aussi évidemment l'enjeu éthique, moral qui pose aussi évidemment en droit.
C'est ça.
L'art, à ce moment-là, se positionne comme un reflet social. Moi, ce que je me pose comme question dans ce que vous avez trouvé à travers l'art, et tout ça, c'est qu'il y a une interaction entre la science et l'art qui est vraiment évidente. Mais est-ce qu'on peut se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire que l'art, maintenant, pourrait influencer le développement scientifique? Est-ce qu'il pourrait se proposer d'être un modélisateur de forme ou d'invention?
Ben, c'est sûr que ça arrive, parce qu'il y a beaucoup les étroites collaborations avec les artistes et les scientifiques, et puis les scientifiques ont toujours un mandat très précis. Certaines elles aiment beaucoup travailler avec les artistes parce qu'elles peuvent faire les recherches sur les choses farfelues, mais qui mènent à quelque chose vraiment incroyable. Et puis, bon, on n'a pas eu le temps de montrer certaines de ces exemples-là. Mais je pense que peut-être ce que vous êtes en train de dire, c'était ça que Sabrosa disait, under US patent law, a new global laws like TRIPS, trade-related aspects of intellectual property, blah, blah, blah. They have to, they may be patented if the inventor can demonstrate novelty, c'est ça? Non-obviousness and usefulness made. Donc, mais c'est quand même la vie, les matières vivantes, non?
C'est donc, les critères généraux des brevets en général.
Oui.
Donc, c'est pas les critères qui sont propres à la vie.
Oui, donc, oui. Non. C'est, oui.
Je ne sais pas, comme c'est évident que si je suis en jeu une unité, si vous l'avez présenté en introduction, la science-fiction, l'idée de limite, de perfection, ou à l'arrière, on peut rentrer dans l'eugénisme aussi.
Oui, il y a beaucoup qui travaillent dans l'affaire de l'eugénisme que je n'ai pas pu montrer ici.
Mais
Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient sortir où on pourrait voir que, dans le fond, l'art peut être à l'avant-garde, souvent, ou peut avoir une influence, justement, sur le développement scientifique? En matière de biotechnologie?
Je pense que oui, il y a des cas, je n'ai pas pu montrer, mais certainement il y a par exemple des artistes, Symbiotica justement, où les scientifiques travaillent avec les artistes qui ont créé les robots biologiques qui font les choses à travers telematically, donc à distance, en temps réel et tout ça. Les artistes biologiques, robotiques qui créent les œuvres en fait. Donc ce que toutes ces expériences démontrent, c'est que l'artiste cherche quelque chose et puis il n'est pas primé ou encadré comme un scientifique, parce qu'un scientifique a un certain but, il veut prouver quelque chose ou il veut trouver quelque chose. Donc cette ouverture artistique est quelque chose qui certains scientifiques recherchent et puis ils collaborent avec eux. Et puis, c'est-à-dire, je ne peux pas donner un exemple précis, comment une invention, mais ça mène dans les voies où qu'une scientifique n'aurait jamais, serait jamais allé à faire tout seul.
L'autre chose,
c'est
qu'on
pensait,
c'est de
sources
de Symbiotica, qui est le premier laboratoire qui est dédié à ça. Ça fait pas des décennies, que c'est, je pense, 5 ans, c'est probable. Donc, c'est quand même, quand on dit l'art et l'argent, we're really paying a merchant artist. Donc,
oui, c'est depuis plus de 15 ans.
Ça a commencé, mais vraiment qu'il y a des facilities pour que les artistes et les scientifiques puissent travailler ensemble, ça fait juste quelques années. Donc, on peut peut-être dire, on peut voir dans 5 ans, en 10 ans, si artistique,
Mon cours de bio, je parle de Günther Van Hagen, et c'est pas, à ainsi dire, un artiste, mais c'est pas grave, il expose, et puis des fois c'est dans les endroits un peu artistiques, et puis maintenant, la distinction entre l'artiste et puis le scientifique ou autre ingénieur est très floue. Mais c'est sûr, Günther Van Hagen aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, utilise les cadavres, les vrais cadavres qui étaient d'accord pour que leur œuvre, leur record soit utilisé dans ce sens-là. Et puis il crée des expositions assez spectaculaires, une exposition que moi je ne voulais pas aller parce que je veux aller voir les cadavres. Mais finalement, je suis allée, et puis c'est à Toronto, pas ici, mais c'est vraiment une exposition didactique complètement qui démontre le corps humain sans peau, où on voit toutes les musculatures dans les situations de faire du ski ou faire les courses, et il démontre par exemple des tranches d'un corps humain obèse, donc on voit, c'est vraiment éducationnel, il y a des enfants qui le demandent, mais alors je me souviens pas de la question sur on peut le mettre dedans, mais lui c'est plutôt un scientifique, il est un biologiste de l'Université de Heidelberg en Allemagne, qui a inventé cette méthode de plastification où on enlève tout le liquide d'un cadavre et puis le plastifie, donc il est immortel en fait. Oui.
Il y avait finalement un rapport avec le droit, parce que finalement, effectivement, les gens avant leur mort signent
un contrat. Oui. Mais, et puis là, on donne son approbation. Tandis que c'est ça avec certaines de ces cas. Et puis c'est dommage que je n'ai pas pu aller dans tous les petits points là où elle montre les cas. Il y a certaines qui sont sous litigation, qui sont, pour différentes cellules qui étaient prises ou... En tout cas, c'est un domaine assez vaste. Et puis, le rôle, si on veut, de l'artiste est beaucoup plus large que c'était au siècle passé. C'est pas juste le peintre et le sculpteur.
S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a vraiment pas de temps. Mais on a dépassé dans nos...
Okay.
Puis, s'il y a d'autres questions, nous autres, on va rester pour quelques minutes. Mais je vous remercie d'être venu, puis je remercie Dr. Dobner. C'est vraiment intéressant, et comme je dis, si vous avez des questions, mais on va rester pour une couple de minutes.
Merci.